Tribunal d'Avignon, lundi 1er février 2016. C'est une affaire inhabituelle que la cour d'assises du Vaucluse s'apprête à juger. Cette femme, qui prend place dans le box des accusés, s'appelle Jessie Travaglini.
Elle a un physique de star hollywoodienne. C'est une très jolie femme. Elle ressemble un petit peu à Lady Di, blonde, les yeux très clairs.
C'est une mère de famille, elle a 27 ans, elle n'a jamais fait parler d'elle en justice. Cette personnalité ne colle pas avec celui d'une tueuse.
Jessie Travaglini a tout, tout, sauf le profil d'une meurtrière.
Mais sur les épaules de la jeune femme aux allures de princesse pèse une terrible accusation. L'assassinat d'une autre mère de famille, Héloïse Bagnolini, 30 ans. Alors, pourquoi Jessie Travaglini aurait-elle commis l'irréparable ? Qui se cache derrière cette charge et des ressources humaines, en apparence inoffensive ?
Personne ne lui a jamais résisté. Elle a l'habitude d'avoir tous les hommes à ses pieds, elle se conduit un peu comme une reine.
On la poursuit pour assassinat sans armes.
Je me dis, mais cette personne avait la vie de ma sœur entre ses mains et qu'elle a fait le choix de la prendre. C'est pas humain, enfin, c'est pas humain.
J'aurais aimé pour tuer Héloïse et ça s'arrête là.
Aubignan, le 11 octobre 2013, il est 18h15 lorsque Sophie, la mère d'Héloïse Bagnolini, reçoit un coup de téléphone. C'est Alain, son gendre, qui l'appelle. Le jeune homme est mort d'inquiétude car sa femme ne répond plus au téléphone. Et chose surprenante, Héloïse, pourtant mère au foyer, n'est pas venue chercher leur petit garçon à l'école.
Il m'a dit qu'Héloïse lui avait passé un texto lui disant qu'elle ne pouvait pas récupérer leur enfant, alors que globalement, elle n'avait jamais loupé une sortie d'école.
Elle va le chercher tous les jours, sans aucune exception. C'est incompréhensible.
Mais surtout, le gendre raconte à Sophie, la maman d'Héloïse, que tout laisse penser que sa femme a quitté le domicile familial.
Il va se rendre compte, d'une part, que le véhicule d'Héloïse n'est pas là, d'autre part, qu'elle-même n'est pas là.
La porte est fermée à clé, l'alarme est enclenchée, elle a pris ses valises, deux valises, ses affaires ne sont plus dans les placards.
Aussitôt alertés, tous les membres de la famille se mobilisent, en vain.
On essaye avec son frère, sa sœur, et tout le monde tombait sur la même chose, directement sur sa messagerie. Héloïse, c'était pas son style, elle décrochait.
Pour les proches d'Héloïse, ce départ précipité est inconcevable. Car depuis 8 ans, la jeune femme semblait vivre le parfait amour avec son bel ingénieur, Alain.
Héloïse, elle croyait au grand amour, elle était assez fleur bleue. C'est vrai que moi, j'ai vu Héloïse avec Alain, avec une grande complicité. Elle était amoureuse d'Alain, ça c'est clair.
C'était l'homme de sa vie, puisqu'elle aurait aimé se marier avec lui, donc on ne dit pas ça au hasard.
La veille, j'avais eu Héloïse, donc le jeudi, elle était bien, on avait plaisanté, on s'était raconté nos histoires.
J'ai demandé à Alain, j'ai dit, mais il y a eu quelque chose entre vous pour qu'elle ait pu partir. Il me disait, non, il n'y a pas eu de dispute, donc il n'y avait rien qui laissait penser à un départ volontaire.
Et puis, il y a quelque chose qui ne colle pas avec la thèse d'un départ précipité d'Héloïse. Jamais la jeune femme ne serait partie sans l'autre amour de sa vie, son petit garçon de 3 ans.
C'était sa raison de vivre et elle, tout son planning était en fonction de son fils.
Elle avait mis cet enfant au monde, c'était sa petite perle et c'était quelque chose de merveilleux pour elle. C'était tellement pas normal. Héloïse n'aurait jamais laissé son fils.
Laisser la prunelle de ses yeux, c'est impossible.
Ce départ ne semble pas naturel. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire.
Alors, où est passée Héloïse Bagnolini ? Pourquoi aurait-elle quitté le domicile conjugal ? Le soir même, son compagnon, Alain, alerte les gendarmes. Et une information est ouverte pour disparition inquiétante. L'affaire est confiée à la brigade de recherche de Carpentras. Et les gendarmes ne vont pas tarder à avoir la preuve qu'effectivement, il est arrivé quelque chose de grave à cette belle jeune femme. En inspectant le domicile du couple, les enquêteurs ont en effet la nette impression d'être confrontés à une scène de crime.
Vous allez trouver dans la salle de bain un pommeau de douche cassé. Vous avez des éléments laissant à penser qu'une scène de violence s'est produite dans la salle de bain. Et là encore, on trouve au sol des traces de sang qui ont plus ou moins été effacées.
On sait qu'elles vont de la salle de bain où on en trouve jusqu'à la porte d'entrée. Lorsque l'analyse est faite par le laboratoire, on sait que c'est le sang d'Héloïse Bagnolini.
Face à ces indices indéniables, Sophie réalise qu'elle ne verra peut-être plus jamais sa fille.
La scientifique était là, il cherchait des indices, il cherchait des éléments. Ça fait un effet horrible, parce que vous n'avez que des gens en blanc, etc., etc. Et puis vous êtes là dehors, vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne savez rien. Et puis vous ne savez rien.
Désormais, les enquêteurs en ont la certitude. Le départ inopiné d'Héloïse Bagnolini n'était qu'un leurre.
On a cette jeune femme qui quitte précipitamment son domicile. On découvre maintenant qu'il y a du sang.
Donc c'est un crime maquillé en départ volontaire.
Cela ne semble faire aucun doute. Héloïse Bagnolini a été agressée à son domicile. Est-elle encore vivante? A-t-elle été enlevée? Si oui, par qui? Toutes ces questions restent sans réponse, mais grâce à un témoignage inattendu, l'enquête va faire un bond considérable. Le 12 octobre 2013, le lendemain de la disparition d'Héloïse Bagnolini, un homme contacte la police et voici ce qu'il déclare.
Il s'est passé quelque chose de grave. Je viens de recevoir un appel de mon cousin. Sa fille est arrivée ce matin chez lui. Elle a fait une grosse bêtise. Elle aurait tué une femme.
Coup de théâtre, cet homme va effectivement dénoncer un meurtre.
L'homme au téléphone donne le nom de Jesse Travaglini comme étant l'auteur de ce meurtre.
Et aussitôt, les policiers font le lien avec la disparition d'Héloïse Bagnolini.
Ils ont une femme qui a disparu, c'est Héloïse, et ils ont de l'autre côté une femme qui semble s'accuser d'un meurtre de femme. Ça peut éventuellement coller.
La dénommée Jessie Travaglini aurait-elle tué Héloïse, comme les gendarmes semblent le penser? Difficile à croire, car à première vue, la jeune femme a tout, sauf le profil d'une meurtrière. Jessie a 27 ans et elle est chargée des ressources humaines d'une puissante entreprise française spécialisée dans la fabrication de soupes industrielles.
Elle est dans une société importante qui s'appelle la société Liebig. C'est quelqu'un d'actif sur le plan professionnel.
Jessie est rentrée dans cette entreprise comme secrétaire. Et elle va gravir très rapidement les échelons. C'est une courageuse, une travailleuse acharnée.
En plus d'être brillante, la jolie blonde aux yeux turquoises est très connue dans la région.
C'est effectivement une très belle femme. Son grand bonheur aurait été d'être Miss Vaucluse. Voilà. Donc elle s'est présentée aux différents concours et elle est arrivée, je crois, au stade de première dauphine. Elle n'est pas arrivée jusqu'à être Miss Vaucluse, mais c'était sa volonté.
C'est un sexe symbole, Jessie Travaglini. Tout le monde tombe sous son charme. C'est pas quelqu'un qui laisse indifférent.
Mariée à un entraîneur de rugby et mère d'un petit garçon de 5 ans, Jessie Travaglini est décrite par tous comme une mère poule et une épouse dévouée.
Il n'y a pas d'ombre au tableau. Apparemment, elle est heureuse dans son couple. Ils ont un enfant. Elle connaît son mari depuis très jeune. Elle l'a connu quand elle avait 15 ans.
Il forme avec sa femme un couple harmonieux.
Elle accompagne son mari sur les entraînements ou sur les matchs de rugby le week-end. Elle s'occupe de son enfant.
C'est une jeune femme extrêmement douce, sensible, gentille.
Et qui a une vie tout à fait normale. Elle a des amis, elle a un entourage amical et familial qui, à première vue, est solide.
Les policiers sont surpris. Comment une femme avec une telle personnalité aurait-elle pu tuer Héloïse ? Et surtout, pourquoi ?
A priori, elles ne se connaissent pas.
Mais a priori seulement. Car à y regarder de plus près, les gendarmes vont s'apercevoir que Jessie Travaglini a un lien avec la victime. Et ce lien, c'est Alain, son compagnon.
Jessie travaille avec le mari d'Héloïse. Il travaille en tout cas dans la même entreprise.
Jessie est engagée en 2009. Et dans cette entreprise, elle va y rencontrer Alain.
Le problème, c'est qu'Alain, le numéro 2 de l'entreprise, et Jessie, la chargée des ressources humaines, ne seraient pas que de simples collègues de travail. Ils sont aussi amants.
Les gendarmes apprennent qu'il y a une relation extra-conjugale depuis plus de 3 ans.
Et c'est dans un couloir de l'entreprise, leur regard va se croiser et ils vont entamer une conversation et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer.
C'est un bel homme, elle aime ce qu'il dégage au sein de la société, il a un poste important, il en impose, comme on dit.
Jessie Travaglini, c'est quelqu'un qui est très sexué, c'est quelqu'un qui est habillé de manière un petit peu provocante. Jolie femme, qui aime bien attirer les hommes.
Au sein de l'entreprise, tout le monde avait bien remarqué la relation très particulière qu'entretenaient les deux collègues.
C'est un secret de polichinelle.
Certaines personnes ont eu leur attention attirée par le rapprochement, les venues assez fréquentes de Jessie Travaglini dans le bureau de son collègue.
Le soir tard, Alain reste dans le bureau de Jessie Travaglini, alors qu'encore une fois, il n'a pas tellement de raison d'y être, puisqu'ils ne sont pas dans le même service.
Les deux amants, après le travail, se retrouvent régulièrement dans le parking de l'entreprise, dans la voiture de Jessie.
La piste d'un drame passionnel se dessine. Jessie Travaglini aurait-elle voulu éliminer sa rivale ? Pour les gendarmes, il est plus que temps d'aller poser la question à la principale intéressée. Et ils savent très bien où la trouver. Car souvenez-vous, l'homme qui a appelé la police a laissé entendre que la jeune femme était chez son père.
Je viens de recevoir un appel de mon cousin. Sa fille est arrivée ce matin chez lui. Elle aurait tué une femme.
Le cousin du père de Jessie Travaglini dit qu'elle s'est réfugiée chez son père.
Les gendarmes, sachant où trouver la présumée responsable, sont donc rendus au domicile des parents de Jessie Travaglini. Ils ont trouvé Jessie Travaglini prostrée sur un canapé à l'intérieur du salon et ont donc pu procéder à son interpellation.
Entre deux sanglots, Jessie Travaglini avoue avoir tué Héloïse. Et elle va même indiquer où se trouve le corps de la jeune femme.
Elle donne l'endroit où se trouve le véhicule d'Héloïse Bagnolini.
Les gendarmes vont se rendre sur place.
Ils vont s'apercevoir, en effet, qu'il y a le corps recroquevillé d'Héloïse Bagnolini dans le coffre.
Malheureusement, les enquêteurs ne peuvent que constater l'identité d'Héloïse et le décès qui remonte vraisemblablement à plusieurs heures.
Placée en garde à vue, Jessie Travaglini va faire d'incroyables révélations. Et ce que les enquêteurs prenaient pour une simple histoire de jalousie va s'avérer beaucoup plus complexe. Devant les gendarmes, la jeune femme veut bien reconnaître qu'elle entretenait une liaison avec le compagnon de la victime.
Elle ne va pas cacher longtemps aux gendarmes qu'elle a une relation sentimentale avec Alain, qu'elle justifie d'ailleurs devant les gendarmes en expliquant qu'elle a connu son mari très jeune.
Jessie Travaglini va être amenée à parler de ses relations avec son mari en expliquant que finalement cette apparence de vie de couple parfaitement bienheureuse, où tout est idyllique, n'était peut-être pas le reflet de la réalité.
Elle n'est pas satisfaite de sa vie, du fait que son mari, ce qui l'intéresse, c'est le rugby, un peu les bières et le poker avec ses copains.
Elle va chercher chez Alain ce qu'elle n'a pas trouvé chez son mari.
Toujours devant les enquêteurs, Jessie raconte ce fameux 11 octobre 2013. C'est Héloïse, dit-elle, qui lui aurait tendu un guet-apens.
Elle indique que la veille, dans la nuit du 10 au 11, à 2 heures du matin, elle a reçu un SMS d'Héloïse qui lui disait en substance qu'elle avait découvert le poteau rose.
Et voici ce que la maîtresse raconte aux gendarmes.
J'ai reçu un message. Il disait « Salut, c'est Héloïse. Je suis au courant pour ta relation avec Alain. Si tu as à cœur, comme moi, de protéger ta famille, je te propose qu'on discute à la maison ce vendredi à partir de 10h30. »
Héloïse Bagnolini donne rendez-vous le lendemain chez elle à Aubignan pour parler.
Et c'est précisément ce rendez-vous entre la maîtresse et la compagne bafouée qui aurait mal tourné. En effet, Jessie raconte que lorsqu'elle arrive chez Héloïse le lendemain matin, elle réalise que sa rivale ne voulait pas arranger les choses, mais en découdre.
Elle est harcelée de questions par Héloïse qui lui demande des précisions sur ses rapports avec son mari.
On a commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle savait qu'Alain la trompait avec moi. Elle voulait savoir depuis combien de temps cela durait. Je lui ai dit la vérité, en indiquant que cela faisait 3 ans et demi. Je lui ai dit que cela avait commencé le lendemain du jour où elle avait annoncé à Alain qu'elle était enceinte.
Et selon Jessie Travaglini, c'est précisément à cet instant qu'Héloïse, la compagne d'Alain, aurait perdu son sang-froid.
Héloïse va devenir violente, va lui porter des coups, va la faire tomber.
Elle aurait fui en direction de la salle de bain. Héloïse l'aurait rattrapée, une bagarre aurait suivi, elle aurait eu sa tête qui frappait la baignoire, elle aurait été un petit peu assommée.
Et que pour échapper à cette scène de violence et échapper à sa propre mort, elle se serait emparée d'une serviette de toilette qui se trouvait là, ce qui n'est pas vraiment étonnant dans une salle de bain, et qu'elle aurait retourné, elle serait mise elle-même en position sur Héloïse Bagnolini et elle l'aurait étranglée avec la serviette de toilette.
Elle va indiquer qu'elle s'est rendue compte, lorsque le sang apparaît, coulant des narines, qu'elle essaye de prendre son pouls. Et à ce moment-là, elle se rend compte que Héloïse ne respire plus.
J'ai passé cette serviette autour de son cou et j'ai serré. Je voulais que ça s'arrête. Je n'ai jamais voulu ça. Je regrette.
Prise de panique, Jessie Travaglini aurait alors eu une idée, tenter de faire croire à un départ volontaire d'Héloïse.
Elle se dit, c'est pas vrai, c'est un cauchemar, ça n'existe pas. Se rendant compte de la situation, elle va tout faire pour effacer le crime.
Elle va penser à prendre 2 valises et à prendre quelques petites affaires pour que sa thèse tienne, à savoir le départ volontaire d'Héloïse.
Et elle met tout ça dans la voiture d'Héloïse.
Elle va mettre le corps d'Héloïse dans le coffre de la voiture.
Et elle va déplacer le véhicule à quelques centaines de mètres.
Dans un espèce de lotissement un peu éteint. Les maisons ne sont pas occupées.
Elle ne conteste pas avoir une participation dans cette histoire, mais elle nie avoir volontairement donné la mort. Elle dit même d'ailleurs qu'elle était un petit peu en état de légitime défense.
Grâce au récit de Jessie Travaglini, les gendarmes viennent de retrouver la trace d'Héloïse Bagnolini. Et ce qu'ils redoutaient se confirme, la jeune mère de famille a bien été tuée. Reste maintenant pour les enquêteurs la lourde tâche d'informer la famille.
C'est inconcevable d'imaginer que ma sœur était morte, c'était pas possible. J'ai pas voulu y croire, on n'a pas voulu y croire.
Puis nous, avec Adeline, on était juste comme ça, on savait plus quoi faire.
Et puis, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Donc, on est assis comme ça. Et puis, on a prévenu nos familles, on a prévenu nos amis proches. Certains avaient déjà défini de venir tout de suite pour nous aider. Juste moralement.
Dans la région d'Avignon, l'annonce du drame est accueillie avec effroi. Personne n'aurait imaginé qu'Héloïse Bagnolini puisse, un jour, faire la une des faits divers.
On ne peut se résoudre au décès d'Héloïse. Il y a une incompréhension totale et c'est le choc.
Les gendarmes doivent maintenant vérifier point par point tout ce que Jessie Travaglini a raconté. Héloïse était-elle vraiment au courant des infidélités de son conjoint ? Aurait-elle bien convoqué sa rivale pour régler ses comptes ? Jessie a-t-elle agi seule ? A priori, Héloïse avait bien prévu ce matin-là de rencontrer sa rivale. D'ailleurs, elle s'était préparée pour l'occasion.
On apprend en procédant à l'audition de beaucoup de mères d'enfants qui avaient vu le matin des faits Héloïse accompagnait son fils, qu'elle était un peu plus apprêtée que d'habitude.
Elle était pouponnée, maquillée, alors qu'elle ne se maquille jamais, bien coiffée, bien habillée, un petit peu comme si elle avait un rendez-vous important.
Héloïse, qui aurait découvert l'infidélité de son mari, se serait-elle ce jour-là mise sur son 31 pour recevoir sa rivale ? Cela semble plausible. D'autant qu'elle aurait envoyé à son mari, Alain, un SMS qui pourrait laisser penser qu'elle avait décidé de le quitter. Voici ce qu'Héloïse aurait écrit à son compagnon.
Il va falloir que tu te libères tôt car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme.
Ce SMS lui dit qu'elle va prendre l'air, c'est un peu ça le sens du SMS, qu'elle a besoin de recul.
Il n'y a pas le moindre mot d'amour. Ce sont des textos qui sont sans la moindre émotion. Les enquêteurs, ils ne peuvent écarter à ce moment-là l'idée qu'Héloïse aurait appris la réalité de la liaison entre son compagnon et sa collègue de travail.
Et qu'elle souhaitait un rendez-vous avec cette femme.
L'histoire que Jessie raconte aux gendarmes pourrait donc paraître crédible. Seulement, il y a des failles. Plusieurs éléments laissent à penser qu'Héloïse ignorait tout des infidélités de son compagnon.
Il parlait d'avoir un deuxième enfant. Je pense qu'on ne met pas en projet d'avoir un deuxième enfant avec une personne dont on a des doutes sur la fidélité.
Et puis, quand bien même était-elle au courant, la jeune femme n'aurait jamais osé affronter la maîtresse de son compagnon. Ce n'était pas dans son caractère.
Connaissant Héloïse, qui n'était pas du tout dans le conflit, elle n'aurait pas donné rendez-vous à la maîtresse de son conjoint chez elle, comme ça.
Elle n'aurait certainement pas invité quelqu'un chez elle pour lui expliquer que c'est mon mari, c'est mon mari. Voilà, elle n'aurait pas fait ça. C'est pas Héloïse.
Je ne vois pas du tout Héloïse porter même un coup, même une gifle. Alors, quand Jessie Travaglini dit qu'elle l'a étranglée en état de légitime défense, pour moi, c'est inimaginable.
Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'était pas possible.
Personne dans l'entourage d'Héloïse ne croit à la thèse de Jessie.
Le scénario qu'a livré la chargée des ressources humaines aux gendarmes serait donc possible, mais bancal. Et c'est l'audition d'Alain, le conjoint d'Héloïse, qui va permettre de révéler le vrai visage de Jessie. Un visage beaucoup moins séduisant, celui-là. Car ce qu'il va dire est à l'opposé du scénario de sa maîtresse.
Immédiatement, il ne fait aucune difficulté pour reconnaître quelque chose qui peut être difficile à admettre, c'est qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec Jessie Travaglini.
Mais il est persuadé que sa compagne, Héloïse, n'était pas au courant de sa relation avec Jessie.
Devant les gendarmes, Alain va décrire sa maîtresse comme une femme malsaine qui nourrissait le désir de supprimer sa compagne. En effet, l'homme prétend être tombé dans les griffes d'une mante religieuse qui aurait jeté sur lui son dévolu.
Il n'a pas dit non, mais ce n'est pas lui qui est allé la chercher.
Alain décrit aux gendarmes Jessie comme étant éperdument amoureuse de lui.
Mais il présente des photos que Jessie lui a envoyées dans des positions suggestives. En indiquant, vous voyez, elle essayait de m'aguicher.
Lorsqu'il est dans une réunion et qu'il reçoit une photo d'elle à moitié nue ou dans une tenue provocante, on imagine ce que ça peut provoquer chez lui.
Elle se sert de sa sexualité, de son apparence physique pour essayer d'avoir Alain.
Selon le compagnon d'Héloïse, dès le début de cette relation, il aurait été pris dans un dilemme. Voici l'incroyable récit d'Alain devant les gendarmes.
Je n'ai pas trouvé la volonté de résister à Jessie. J'étais partagé entre mon attirance sexuelle pour cette fille et la culpabilité quand je rentrais chez moi.
Il va dire qu'il était consentant au départ. Mais que chaque fois qu'il y avait eu une relation, il se promettait bien d'y mettre un terme.
Il est attiré physiquement par cette femme. Il est écartelé. Lui tient à son histoire, tient à son couple. Et en même temps, il a cette femme qu'il tourmente quelque part. Hein.
Il se sentait coupable. Il était angoissé de cette culpabilité. Mais sexuellement, il était pris.
Alors, pour résister à Jessie, l'homme affirme avoir édité une charte. Un code de bonne conduite que le mari infidèle aurait instauré entre lui et la belle tentatrice. Incroyable.
Premièrement, on se voit, on se caresse, on fait tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'acte de pénétration. Comme ça, je n'aurai pas l'impression de tromper ma compagne.
Il n'y aura jamais d'acte sexuel abouti. Il exige que les relations sexuelles en restent au stade des préliminaires.
Deuxième élément de la charte, ce n'est jamais moi qui t'appellerai, c'est toi qui dois venir vers moi, c'est toi qui dois me relancer.
Les rendez-vous n'étaient pris qu'à l'initiative d'elle, c'est-à-dire que lui n'était jamais finalement demandeur d'un rendez-vous.
Troisième élément de la charte, on ne se voit ni chez toi ni chez moi, on se voit ou à l'hôtel ou dans la voiture.
Et ils avaient pour règle absolue de ne jamais rester une nuit ensemble, par exemple, même quand ils se retrouvaient à l'hôtel. Ensuite, chacun rentrait chez soi.
Seulement, selon Alain, ces 10 commandements ne convenaient plus à sa maîtresse. Et selon lui, ces derniers temps, Jessie était devenue nerveuse et agressive.
Il explique aux enquêteurs qu'il est littéralement harcelé par cette femme, qu'elle ne le lâchait pas d'une semelle, qu'elle était en permanence à lui envoyer des messages, à lui téléphoner, à rentrer dans son bureau, à l'attendre, à surveiller son ordinateur.
Elle vit à travers Alain. Elle est passionnée par Alain. Elle va, comme par hasard, à la même station de ski qu'Alain. Ils se retrouvent. Il y a une semaine de ski assez incroyable. Il y a beaucoup de stations de ski en France. Il y a une seule station où il y a la famille d'Alain et sa femme. Elle est là avec son mari et son fils.
À tel point que peu de temps avant la mort d'Héloïse, Alain aurait enfin décidé de mettre un terme à ses relations avec Jessie.
Il lui dit, je t'ai toujours dit qu'il n'y avait aucun espoir que nous puissions un jour former un vrai couple, qu'il va peut-être déménager parce qu'il veut repartir sur de nouvelles bases avec sa compagne. Il fait état de cette volonté de quitter la boîte, mais également la région.
Il est sous pression. Il sait qu'elle est amoureuse de lui.
Et donc, il fait une sorte de rétro-pédalage et il va lui dire « Stop, on arrête, c'est fini, c'est terminé. »
Jessie serait-elle devenue obsessionnelle au point de vouloir éliminer sa rivale? Son amant en est persuadé.
Visiblement, Jessie ne va pas le supporter. Et elle aura cette phrase qui, avec le recul, là encore, interpelle. « Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. »
Et la suite de l'enquête va remettre en cause la thèse soutenue par la maîtresse. Contrairement au scénario livré par Jesse, l'hypothèse d'un rendez-vous fixé par Héloïse ne tient pas. C'est la téléphonie qui va en apporter la preuve.
On a vérifié s'il y avait pu y avoir un message qui part du téléphone d'Héloïse Bagnolini pour arriver sur le téléphone de Jesse Travaglini. On est sûr qu'il n'y a absolument rien eu.
Elle est prise en flagrant délit de mensonge sur un point et un élément capital.
Et ce n'est pas tout. Le médecin légiste va démontrer que la thèse de la légitime défense, soutenue depuis le départ par la maîtresse, n'est pas plausible.
Elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle était morte très vite.
Or, le médecin légiste dit tout autre chose. Il dit d'abord que l'étranglement a duré très longtemps pour obtenir le résultat de la mort.
L'agonie, c'est-à-dire entre le moment où vous commencez à serrer, où Jesse Travaglini commence à serrer, et le moment où Héloïse meurt. C'est 7 minutes.
La maîtresse aurait tué volontairement Héloïse. Mais en plus, les gendarmes vont la soupçonner d'avoir prémédité son geste depuis longtemps. 3 semaines avant le crime, Jesse Travaglini se serait procuré de quoi paralyser la femme de son amant.
Les gendarmes découvrent un emballage d'un taser qu'elle a acheté 3 semaines auparavant.
Avec la particularité qu'elle l'achète très loin des marchands d'armes du coin.
Vous pouvez acheter un taser à 3 km de chez vous. Non, elle est partie à l'autre bout du département pour acheter ce taser. Elle pose un jour de congé environ une semaine avant. Sans véritable raison, sans le dire à son époux.
Jesse Travaglini a posé une journée complète de congé pour le jour du crime.
Désormais, les gendarmes en sont certains. Le matin du 11 octobre 2013, la maîtresse se serait présentée d'elle-même au domicile d'Héloïse avec l'intention de tuer. Et l'enquête va le démontrer. Ce n'est pas la première fois que la belle chargée des ressources humaines provoque l'une de ses rivales. Chez Liebig, les langues se délient. Jesse Travaglini est décrite comme une croqueuse d'hommes. Et dans l'entreprise des amants, elle en a eu.
Jesse Travaglini a déjà eu une liaison adultérine avec un autre collègue de travail.
Un homme qui lui aussi était marié.
Nous avons pu rencontrer cette épouse bafouée. Elle a souhaité préserver son anonymat. Elle dit se souvenir à quel point Jesse était prête à tout pour parvenir à ses fins.
Depuis le jour où j'ai vu son nom dans le répertoire de mon mari, j'ai su qu'il y avait quelque chose entre eux. J'ai pris le numéro de Jesse et je lui ai demandé de cesser de fréquenter mon mari. Mais malgré mes demandes, elle revenait effectivement sans cesse, sans cesse. Elle continuait d'appeler le week-end, le soir. Elle avait la volonté de briser notre couple pour arriver à ses fins. Elle était tenace.
Loin de se dégonfler, Jesse Travaglini aurait alors fait une proposition étonnante à l'épouse de son nouvel amant.
Stéphanie va faire une révélation fracassante aux enquêteurs en disant que Jesse lui a proposé de la rencontrer.
Quand vous mettez cette histoire en parallèle avec celle d'Héloïse et d'Alain, ça permet d'apprécier Jesse Travaglini d'un autre angle.
Il y a une espèce de répétition et de redite.
Elle est arrivée à ce rendez-vous très conquérante, sûre d'elle. On a commencé à parler évidemment de mon mari, d'elle et de leur relation.
Face à sa rivale, la belle Jesse va se montrer sûre d'elle et déterminée.
Elle m'a rapidement dit qu'elle n'avait que 26 ans, qu'elle était plus jeune que moi et puis qu'elle était mieux que moi. Grosso modo, c'est ça. Elle était là pour me dire qu'il fallait que je m'efface, qu'elle était supérieure. Elle me fait comprendre, oui, clairement, que j'ai aucune chance face à elle. Et qu'elle n'a pas l'intention de s'éloigner de mon mari.
Avec le recul, Stéphanie se dit que ce jour-là, elle a peut-être échappé au pire.
Quand j'ai su pour la mort d'Héloïse, je me suis vue à sa place. Sur le coup, j'ai eu très peur. Ça aurait pu être moi. Si on n'avait pas été dans un lieu public, ça aurait pu être moi.
Finalement, le mari de Stéphanie a lui fait un choix immédiat en arrêtant la relation avec Jessie. Il a été beaucoup plus tranché que ne l'a été Alain.
Pour les gendarmes, peu à peu, Jessie apparaît comme une prédatrice redoutable, sans aucun scrupule.
On s'aperçoit à ce moment-là que Jessie Travaglini n'a pas de limite.
Elle a l'habitude d'avoir tous les hommes à ses pieds, elle se conduit un peu comme une reine.
C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, elle a un côté conquérant.
Jessie Travaglini veut gagner. Autant dans le travail que dans sa vie privée, elle ne supporte pas l'idée d'un échec.
Alors, lorsqu'un an plus tard, Jessie Travaglini sent qu'Alain n'est pas disposé à quitter Héloïse, la chargée des ressources humaines voit rouge.
Elle veut Alain et a priori, elle est prête à tout pour l'avoir.
Le 1er décembre 2014, un an après les faits, Jessie Travaglini est mise en examen pour assassinat. Et voici, selon les enquêteurs, le scénario qu'elle aurait mis en place pour supprimer sa rivale, Héloïse, maman d'un petit garçon de 3 ans. Il est 9h du matin, le 11 octobre 2013. Jessie Travaglini a posé son jour de congé. Et pour passer inaperçue, la jeune femme a tout prévu.
Ce jour-là, Jessie se rend donc chez un fleuriste, achète un bouquet de fleurs.
Pour laisser penser au voisinage qu'elle vient apporter des fleurs à Héloïse Bagnoli.
Elle s'est modifiée légèrement la coiffure, elle a rattaché ses cheveux par l'arrière, chaussé une paire de lunettes de soleil.
Un bouquet de fleurs qui serait destiné a laissé penser à sa rivale qu'il s'agit d'une visite de courtoisie. Et la supercherie imaginée par Jessie va marcher. Héloïse ouvre la porte.
Jessie a le bouquet de fleurs d'une main, le taser de l'autre, et elle va sonner à la porte de la maison.
Elle est accueillie par Héloïse Bagnolini.
Et à ce moment-là, elle se retrouve nez à nez avec Héloïse.
Elle rentre.
Et là, les choses se précipitent.
Seulement la présomptueuse Jessie aurait sous-estimé sa rivale.
Elle doit essayer de faire peur à Héloïse Bagnolini avec le taser.
Héloïse aurait fui en direction de la salle de bain.
Mais dans sa fuite, la jeune femme se serait fait rattraper par son agresseur.
Jessie Travaglini la rattrape, l'empêche de fermer la porte.
Et là, la scène de crime, c'est une scène de lutte. Une bagarre s'instaure.
Elle s'empare du sèche-cheveux, lui porte des coups sur la tête. Profitant de ce que Héloïse est un peu sonnée.
Elle a tiré quelque chose. La première chose qui lui venait sous la main, c'était une serviette. Elle va l'étrangler en faisant comme on fait avec une serviette mouillée au bord de la plage. On la tord.
Une fois sa victime tuée, Jessie se serait alors débarrassée du corps d'Héloïse. Et avec un incroyable sang-froid, elle va le cacher.
Elle va traîner le corps, le mettre dans le coffre de la voiture d'Héloïse.
Là, une anecdote à ce propos, puisqu'il y a un voisin qui passe et qui la salue, alors qu'elle est en train de mettre le cadavre dans le coffre de la voiture.
Elle lui a dit bonjour, elle lui a fait un signe. Vous vous rendez compte le culot qu'elle a?
Pour Jessie Travaglini, resterait à exécuter la suite de son plan. Faire croire à tout le monde qu'Héloïse aurait délibérément quitté son compagnon. Souvenez-vous, le jour de sa disparition, Alain a reçu un texto émanant du portable d'Héloïse.
Il va falloir que tu te libères tôt car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme.
Mais en réalité, ce texte a été écrit par Jessie elle-même.
Elle va être capable de prendre le téléphone d'Héloïse, d'envoyer un message à Alain pour lui indiquer qu'elle a besoin d'air, qu'elle a besoin de calme et qu'il doit dès lors se rendre à l'école, récupérer l'enfant.
Donc, en se faisant passer pour Héloïse Bagnolini, elle va manifester le désir de le quitter.
En envoyant ce SMS à Alain, son amant, Jessie aurait donc espéré récupérer pour elle toute seule l'homme qu'elle aimait. La suite du scénario imaginé par les enquêteurs est simple. Jessie aurait jeté tous les éléments susceptibles de l'accabler dans le Rhône.
Le téléphone portable, la serviette ayant servi à étrangler, le sèche-cheveux avec lequel elle s'est battue, le taser qui aurait été utilisé, pas utilisé, on ne sait rien. Tous ces éléments-là, elle les fait disparaître.
Pour l'instant, j'ai envie de dire que tout s'est à peu près bien déroulé dans l'esprit de la criminelle. Il n'y a qu'un malheur dans cette histoire, c'est qu'elle a le visage complètement tuméfié parce qu'elle a reçu aussi des coups.
Blessée au visage, Jessie doit impérativement trouver une parade. Et dans ce domaine, la chargée des ressources humaines va démontrer qu'elle a plus d'un tour dans son sac.
Elle a rendez-vous avec une de ses amies. Et elle va se rendre chez cette amie.
Elle arrive, elle met les fleurs devant son visage pour visiblement cacher certaines traces.
Et là, elle tombe, tout de suite. Elle fait semblant de tomber.
C'est préparé et ça porte ses fruits, puisque son ami va y croire. Son ami l'amène aux urgences à l'hôpital pour voir si elle ne souffre pas de blessures graves. Donc, tout ce qui est préparé marche, fonctionne.
Jessie Travaglini pense s'en sortir. Mais seulement elle a fait une erreur de taille. Le lendemain, souvenez-vous, la meurtrière va se rendre chez son père pour se confesser de son crime.
Très paradoxalement, alors que son plan semble avoir fonctionné, puisqu'elle est à l'abri du moindre soupçon, elle prend contact avec son père le lendemain matin.
Et elle va expliquer à son père ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a tué une femme.
Papa, j'ai besoin d'aide. Cette aide, ça consistait à venir brûler le véhicule avec le corps à l'intérieur.
La première chose qu'elle dit à son père, viens m'aider à faire disparaître la voiture.
Je pense que quand elle demande cela à son père, elle s'attend à ce que celui-ci s'exécute. D'abord parce que c'est le papa, et aussi parce que quand elle demande quelque chose, elle l'obtient.
Seulement, ce que Jessie n'a pas imaginé, c'est que son père, plutôt que de se faire complice d'un crime, va précipiter sa chute.
Et là, le père va refuser.
Son père aura la bonne réaction puisqu'il appellera un cousin à lui, lequel préviendra ensuite les enquêteurs.
Et à partir de là, elle est dans le collimateur de l'enquête et elle va être très rapidement arrêtée.
Le lundi 1er février 2016 s'ouvre aux assises du Vaucluse le procès très attendu de Jessie Travaglini pour l'assassinat d'Héloïse Bagnolini. L'enjeu est énorme. La jeune femme encourt la peine maximale. La perpétuité. Après 3 ans d'attente interminable, les proches de la victime ainsi que son compagnon, Alain, espèrent enfin avoir des explications.
Quand le procès est arrivé, on savait qu'on allait voir pour la première fois en vrai la meurtrière. Et on espérait des réponses sur comment ça s'est passé.
On pensait réellement que la personne allait avoir l'honnêteté morale et de dire la vérité, de dire ce qui s'était passé.
Mais face au juré, Jessie Travaglini va se montrer encore une fois méprisante et imperturbable.
Je l'ai découverte au procès et elle était pile dans mon axe. Donc mes yeux sont attardés sur elle. Il se trouve qu'elle m'a regardée à un moment donné et je peux vous dire qu'elle n'a pas lâché le regard. C'est comme une espèce de provocation supplémentaire. Et c'était tellement insupportable que j'étais obligée de changer de place.
On a bien vu que tout lui était égal, qu'elle était là effectivement pour le procès, mais en dehors de ça, elle n'était pas émue. Les seules personnes qui lui mettaient une larme, ça va être ses parents, sa famille. On voyait bien que le reste du monde, elle s'en foutait.
Jessie Travaglini n'en démord pas. La mort d'Héloïse n'est qu'un malencontreux accident. Et voici ce qu'elle déclare à la cour.
Je n'ai jamais voulu tuer. Je n'ai jamais voulu faire de mal.
Pendant les 3 jours d'audience, elle n'a pas changé son système de défense d'un pouce.
C'est-à-dire qu'elle est restée sur sa position qui est basée sur la légitime défense. Elle considère qu'elle a sauvé sa peau ce matin-là et que sa vie était en danger.
Dans un premier temps, le procès de Jessie Travaglini va tourner à son avantage. Souvenez-vous, Alain, le mari infidèle, avait instauré des règles pour, dit-il, protéger son couple. Or, le procès va révéler que ces règles auraient peut-être eu l'effet inverse.
Jessie, c'est une jeune femme qui a trouvé un homme qu'elle s'est mis à admirer et dont elle recherchait la compagnie. Et qui s'est trouvé à un moment donné frustré dans cette relation.
Même leur relation sexuelle, pour elle, c'était devenu très frustrant. C'est-à-dire qu'elle avait des demi-relations intimes. Et là, quelque part, sans chercher à la défendre, je peux la comprendre. Voilà une femme qui, depuis 3 ans et demi, n'entretient finalement avec son amant que des demi-relations.
Il a joué avec Jessie, monsieur Alain. Les interdictions, le code de bonne conduite que lui a imposé Alain, à mon avis, a un peu fait dériver Jessie.
Pour l'avocat général et la partie civile, les mensonges à répétition de Jessie sont accablants.
Chaque fois qu'elle avait une thèse à soutenir, elle était démontée par un expert. Elle a dit qu'elle avait reçu un message dans la nuit. C'est impossible. Elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'Héloïse était morte très vite. Ça paraît exclu puisqu'il y a un temps d'agonie qui fait 7 minutes. Voilà. Tout ce qu'elle dit a été contredit.
Après 3 jours de procès, le verdict tombe. Jessie Travaglini est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, mais uniquement pour meurtre.
La cour d'assises de Vaucluse a répondu non à la question de la préméditation.
Parce que lorsque Jessie se présente au domicile de sa rivale, elle a un taser à la main. Le taser n'est pas reconnu comme une arme létale. Elle n'est pas venue avec une arme qui a donné la mort.
Elle est acquittée du chef d'assassinat, mais elle va être condamnée à la peine maximale pour l'homicide volontaire.
À l'annonce du verdict, Jessie Travaglini est abasourdie. Mais pour les proches d'Héloïse, c'est une première victoire.
Et là, je me dis qu'il y a quand même un jury constitué de personnes objectives qui ont écouté ces mensonges du début à la fin et qui ont jugé que c'était n'importe quoi. Donc je me dis que c'est un peu rassurant, on n'est pas complètement à côté si on se dit que ma sœur n'y est absolument pour rien, qu'elle n'a absolument rien demandé dans cette histoire.
Donc c'est vrai qu'à l'énoncé du verdict, on est d'abord le soulagement parce qu'il y avait une condamnation. Après, ça. Moi, Héloïse, elle est toujours pas revenue, elle reviendra jamais et ce qu'on lui a fait est insupportable. 30 ans, ça veut dire que j'espère être morte quand elle sortira parce que comme ça, j'aurai tout effacé.
Jessie Travaglini a décidé de faire appel de cette décision. Incarcérée à la prison de Nîmes en attendant son nouveau procès, elle reste présumée innocente.